Louange et remercier soit le Seigneur. Louange et merci au Seigneur. Et frère Pézal a dit que cela pourrait être demain. Déjà, nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur appellera l'un ou l'autre à lui. Mais nous devrions toujours garder une chose à l'esprit, à savoir que nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur lorsqu'il nous appelle. Et si en plus nous pouvons emporter avec nous la certitude que nous n'avons pas vécu pour nous, mais pour celui qui est mort pour nous, alors notre vie en aura valu la peine. Elle valait la peine d'être vécue. En cela aussi, frère Pézal a vraiment trouvé les mots justes. Ce ne sont pas seulement quelques-uns qui sont appelés et invités à servir le Seigneur, mais tous, vraiment tous ceux qui ont expérimenté Dieu sont appelés à témoigner de sa grâce, de la grâce de l'amour, de la miséricorde de Dieu. Et je ne veux pas anticiper l'événement salvateur de notre Seigneur, mais l'annoncer quand même que le moment sera atteint où il en sera comme dans le christianisme primitif, qu'une église restaurée, dotée de la puissance d'en haut, revêtue de la puissance d'en haut, des hommes et des femmes témoigneront de ce que Dieu a fait. Ce témoignage sera si frais, si vivant et si efficace que nous serons étonnés de tout ce que Dieu fera encore. Ce sont des heures de préparation à ce que Dieu va encore faire. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, le meilleur est encore à venir. Le plus grand et le plus glorieux, Dieu le fera encore. La fin sera égale au commencement, peut-être même plus puissant, plus grande, plus puissante. Nous pouvons à nouveau nous tourner vers nous, pauvres humains, et penser comment cela va-t-il se passer. Et nous trouvons la réponse dans Zacharie, chapitre 4. Ce n'est ni par la puissance d'une armée et ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel, des armées. C'est par mon esprit que cela sera fait. Ainsi a parlé l'Éternel Dieu. Je vous demande, qui était Pierre, qui était Jacques, qui était Jean? C'était les plus simples, les hommes les plus simples parmi les plus simples. Et soudain, Dieu s'est révélé dans la simplicité et a pris ses pêcheurs pour un service dont les autres n'auraient même pas rêvé. Dieu est capable de prendre ce qui n'est rien dans le monde, afin que la gloire lui revienne, à lui et à lui seul. Et c'est ce rien que nous voulons être. Et alors tout va bien. Dieu ne peut pas utiliser des gens qui sont déjà quelque chose. Dieu ne peut utiliser que des gens qui ne sont rien. Amen, amen. Qui ne sont rien, rien. Cet après-midi, comme je l'ai dit, je voudrais que tout le monde soit là. Vraiment tout le monde. Celui qui a planifié l'après-midi, celui-là qui puisse appeler et dire que ce n'est pas possible, l'après-midi, je ne suis pas libre. Ce n'est plus possible. Donc, cet après-midi, tout le monde doit vraiment être là. Et je vais vous dire aussi pourquoi. On entend souvent dire que nous ne venons pas seulement pour écouter. Nous faisons partie de ce que Dieu fait maintenant sur la terre. Nous formons une partie de l'histoire du salut de nos jours. Pour cela aussi, nous sommes reconnaissants à Dieu du fond du cœur. Qui aurait pu nous faire comprendre et nous révéler tout cela si Dieu ne nous avait pas regardé avec grâce et ne nous avait pas donné la connaissance par révélation de ce qui se passe dans nos jours. Et nous, nous pouvons le savoir que grâce à cela, et ça je le dis très ouvertement et très clairement, parce que Dieu a envoyé un serviteur et un prophète. Il y en a déjà eu beaucoup qui ont entendu parler de l'enseignement de Dieu, de l'unité de Dieu, du baptême au nom de Jésus-Christ et de bien d'autres choses encore. Mais il fallait un prophète pour faire remonter la parole prophétique à la surface, pour la placer sur le chandelier, pour nous faire connaître l'ensemble du plan de salut de Dieu. Le plan de salut de Dieu ne se résume pas à deux ou trois enseignements qui nous importent. Le plan de salut de Dieu inclut chaque promesse que Dieu a faite. Et il était nécessaire que nous l'entendions, puis que nous les croyons, puis ensuite que nous les voyons s'accomplir. Donc, se référant au prophète. D'abord, Dieu donne la promesse. Ensuite, il a des gens qui croient ce qu'il a promis. Et ensuite, il les a destinés à vivre ce qu'il a promis. C'est-à-dire, en ceux et avec ceux qui croient ce qu'il a promis. Je veux dire que cela ne peut pas être dit plus clairement et ne peut pas être annoncé plus clairement que ça. Je voudrais continuer avec la parole déjà observée. Et s'il vous plaît, prenons toutes ces paroles à cœur. Dans Philippiens 1, nous avons tous lu ce qui nous a été déjà dit et lu dans la parole d'introduction. Je voudrais le relire ici dans cette traduction. Philippiens 1, verset 8. Car Dieu m'est témoin que, avec l'amour ineffable de Jésus-Christ, vous savez, il y a plusieurs amours, des amours humains, mais il y a un amour du Christ, un amour de Dieu qui s'est manifesté en Christ. Et cet amour doit avoir été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tout le reste est un effort personnel et nous ne pouvons pas atteindre le but avec cela. Nous devons vraiment expérimenter Dieu tel que c'est écrit et porter cet amour divin ensuite dans notre cœur. Donc à la fin du verset 8, avec l'amour ineffable de Jésus-Christ, je désire ardemment vous voir tous. Verset 9, et ma prière est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en toute finesse pour examiner ce qui est juste dans tous les cas. Qu'est-ce qui est juste dans tous les cas? Ce que Dieu a prévu pour ce temps et qu'il a promis et ce qu'il a laissé dans sa parole. Ça, c'est ce qui est juste dans tous les cas. Et que Dieu nous le révèle par son esprit dans sa parole. Il est écrit ensuite, verset 10, pour examiner. Donc, la deuxième partie du verset 10, afin que pour le jour du Christ, vous soyez purs et sans reproche. Nous avons aussi fait connaître et expliquer cela. Le jour de l'Éternel est une chose. Et le jour de Jésus-Christ en est une autre. Une autre chose. Nous attendons le jour de Jésus-Christ. C'est le jour où l'époux sera ramené à la maison. Le jour du Seigneur est alors le jour terrible qui brûlera comme une fournaise. Mais nous ne pouvons pas non plus nous étendre sur ce point maintenant. Le verset 11. Rempli du fruit de justice qui nourrit par qui mûrit par Jésus-Christ. Ainsi, ce n'est pas de toi qu'il provient. Ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est de Jésus-Christ que le... Et c'est lui, le Christ, qui fait naître en nous l'espérance de la gloire. Lui, la vigne, nous, les serments. Sa vie se révèle et se manifeste à travers nous. La vie qui est dans la vigne ne reste pas dans la vigne. Elle se révèle dans les serments. Et comment se manifeste-t-elle dans les serments? Le fruit est la preuve de la vie. Et le fruit de la vigne est alors dans les serments. Et on peut en profiter et que Dieu nous accorde cela aussi par grâce. Continuons avec 1 Pierre, chapitre 1, du verset 13 jusqu'au verset 20. Une parole très merveilleuse. Je voudrais vivre. Je voudrais voir que nous soyons heureux sous l'écoute de la proclamation de la parole de Dieu. Nous n'entendons pas ici comme au mont Sinaï des paroles qui nous condamnent parce que nous ne pouvons pas les respecter et les accomplir. Nous entendons ici l'évangile, la bonne nouvelle que Dieu nous a sauvés et nous a pardonnés. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 13. Voilà pourquoi vous devez être prêts et revêtus spirituellement de toute l'armure pour aller de l'avant avec audace. Soyez donc sobres et mettez votre espérance uniquement dans la grâce. Pas sur un homme. Non pas en un homme, non pas en vous-même. Mais mettez votre espérance exclusivement dans la grâce. Et la grâce de Dieu ne nous fera pas défaut. Il nous a fait grâce. Sa grâce et l'alliance de paix qu'il a faite avec nous ne s'éloigneront pas de nous. Les montagnes peuvent céder et les collines tomber. Mais ma grâce et l'alliance ne s'éloigneront pas. Le Seigneur l'a confirmé dans le Nouveau Testament et a dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Il a rendu la nouvelle alliance exécutoire par son sang. Donc, il a fait en sorte qu'elle soit en vigueur par son sang afin de nous faire bénéficier de la grâce. Il a ensuite dit au verset 13, mettez votre espérance uniquement dans la grâce qui vous sera offerte dans la révélation de Jésus-Christ. Lorsque Moïse a mentionné le terme de grâce, il a dit, fais-moi voir ta gloire, fais-moi connaître tes voies et ton nom, etc. Ainsi de suite. Tout cela réside dans la révélation de Jésus-Christ. La volonté de Dieu, la parole de Dieu, le nom de Dieu, tout nous a été révélé par grâce. Maintenant vient l'invitation. Verset 14. Comme des enfants de Dieu obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon son modèle. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Un objectif pour nous, inatteignable d'un point de vue humain. Vu du point de vue de Dieu, passons ainsi à Jean 17, verset 17. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Une imprégnation de la sainteté est pénétrée, de la sainteté et de la majesté divine. Une absorption, une réception de la substance divine de la parole dans notre cœur. Et c'est ainsi que s'opère en toi et en moi la sanctification divine que ni toi ni moi n'opérons, mais que Dieu opère en nous par l'Esprit et par la parole. Plus loin, il est écrit au verset 17, 1 Pierre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Pèlerinage, peut-être que, oui, pèlerinage. Nous sommes sur terre. Nous sommes sur terre que des hôtes et des étrangers. Notre patrie est là, dans les hauteurs, au ciel, où l'on ne connaît ni tristesse, ni douleur, où il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni rien de semblable, mais où l'on se réjouit dans l'éternité, pour l'éternité. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Si cela avait été de l'or et de l'argent, cela aurait été aussi périssable et temporel que l'or et l'argent. C'était le sang de l'agneau, comme il est écrit ici. Mais avec le sang précieux, pourquoi précieux? Parce que c'est en lui qu'a eu lieu la rédemption. Dans ce sang précieux, il y avait la vie divine. Nous avons déjà parlé de cela aussi, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Maintenant arrive quelque chose de très glorieux. Verset 20. Bien qu'il était prédestiné avant la fondation du monde, il ne vous a été manifesté qu'à la fin des temps pour votre bien. L'agneau de Dieu a été prédestiné à mourir pour nous avant la fondation du monde. Et nous, nous avons été prédestinés à devenir enfants de Dieu. Et cela avant la fondation du monde. Parce que l'agneau de Dieu donnerait sa vie pour nous. Je ne sais pas si c'est devenu aussi grand pour vous que pour moi. Et plus j'y pense, plus ma joie est grande et intime. Dieu a créé Adam à son image. Mais Adam n'était qu'une créature. Il n'était pas issu de Dieu. En Christ, Dieu a pris un nouveau départ. Il est sorti de Dieu. Il était la vie de Dieu, la nature de Dieu. Il était Dieu lui-même, sous forme humaine. Le Père, manifesté dans le Fils, révélé dans le Fils, pour faire quoi? Pour une nouvelle descendance divine, race divine, qui ne porte pas seulement l'image de Dieu, mais qui porte en elle la nature de Dieu, la vie de Dieu. Faites en Christ le commencement de la création de Dieu, et nous, nés et engendrés du même esprit, et puis, finalement, changés à son image. Et pour parler avec Paul selon 1 Corinthiens 15, et comme nous avons porté en nous l'image du terrestre d'Adam, donc nous, de même, nous porterons en nous l'image du céleste. Ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais lorsque cela sera manifesté, révélé, nous serons semblables à lui. Je sais que nous ne pouvons pas le comprendre, mais nous pouvons le croire. Amen. Nous pouvons le croire. Ou bien alors, pas le saisir, mais nous pouvons le croire. Et c'est ce qui est beau. Après tout, la parole de Dieu ne s'adresse pas à notre intelligence, mais à nos cœurs. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 7. 1 Pierre chapitre 2, verset 7. C'est donc à vous qui possédez la confiance, ou alors la foi, qu'est donné le bien précieux. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Et au verset 8, « Et donc, pierre d'achoppement et rocher de scandale, ils trébuchent sur lui dans leur désobéissance contre la parole, désobéissance à laquelle ils sont aussi destinés. » On ne veut pas le dire, mais il y a des gens qui sont destinés à entendre la parole, à y croire et à la rendre efficace en eux. Ils s'ouvrent au Seigneur. Et il y a des gens qui contredisent Dieu. C'est pourquoi la parole et l'esprit ne peuvent pas être efficaces en eux. Et alors ils s'égarent, se heurtent, prennent en scandale des choses qui sont en bénédiction pour nous. Le verset 9 dit, et nous nous en réjouirons. Verset 9, Vous, par contre, vous êtes la descendance élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple choisi pour lui appartenir. Peut-on nous en dire plus? Comme c'est impressionnant. Dieu a fait d'une race humaine une race divine, une race élue, un sacerdoce royal. Et nous pouvons en faire partie. Loué soit le nom du Seigneur. Pouvez-vous vous en réjouir? Je voudrais nous faire lire le premier chapitre de Colossiens. Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, versets 21 et 22. À vous aussi qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans vos mauvaises œuvres. Verset 22. Mais maintenant, il vous a réconcilié dans son corps de chair par sa mort pour vous présenter devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Ce que nous avons lu ici est également vrai. Il ne s'est pas contenté de nous réconcilier. Il nous a présentés déjà maintenant comme saints et irréprochables devant sa face. Pourquoi? Parce qu'il a ôté de nous tout ce qui était culpabilité et péché. Et nous avons reçu en lui la justice et la sainteté originelle de Dieu. Ce qui a été perdu à cause de la chute, Dieu nous l'a offert à nouveau en Christ. Loué soit son saint nom. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, versets 15 à 17. L'esprit que vous avez reçu n'est pas en effet un esprit de servitude au point que vous ayez à nouveau à craindre, mais vous avez reçu l'esprit de filiation qui vous engendre dans la relation père-fils. Et cette pensée est aussi très très importante. Nous n'avons pas seulement reçu l'esprit de Dieu, mais l'esprit de filiation qui nous engendre dans la relation père-fils. Nous avons été établis comme fils et filles de Dieu pour être héritiers selon la promesse. Et vous verrez encore dans les passages bibliques suivants comment Dieu a accompli tout cela d'une manière tout à fait merveilleuse. Vous avez pas reçu un esprit de servitude qui vous au point que vous ayez à nouveau à craindre, mais vous avez reçu l'esprit de filiation qui vous engendre dans la relation père-fils par lequel nous crions Abba, Père. C'est précisément cet esprit uni à notre esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pouvons-nous tous témoigner que l'Esprit nous a donné la certitude d'être devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dites une fois Amen. Il est vraiment nécessaire que nous donnions notre accord à Dieu, que nous le suivions intérieurement et que nous fassions sans cesse. Et que nous fassions sans cesse l'expérience avec Dieu à nouveau. Son Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Verset 17, il est écrit. Mais si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si en effet nous souffrons avec lui pour avoir part aussi à sa gloire. Je voudrais lire Matthieu 3, verset 11. Avant de passer à l'Ancien Testament pour vous montrer dans quel ordre le Seigneur Dieu a fait ces choses. La rédemption, l'accomplissement d'être rempli du Saint-Esprit, l'engendrement dans la relation père-fils, etc., la filiation, et ainsi de suite. Matthieu, chapitre 3, verset 11. Ici, Jean dit, Matthieu 3, 11, « Je vous baptise d'eau seulement pour la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus fort que moi, et je ne suis pas assez bon pour lui ôter ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Le 12e verset, je ne veux pas vraiment le lire car il n'est pas dans le sujet, mais comme il y a des gens qui veulent tenir l'appel dans leurs mains, je veux quand même le lire pour montrer que ce ne sont pas les hommes qui balayent l'air, mais le Seigneur seul. Lui, pas d'autre, lui, c'est lui qui a dans sa main l'appel de vannage et il nettoyera à fond son air de battage. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent déjà faire cela, trier qui est quoi, et ainsi de suite. Et ensuite, ils balayent l'air, et à la fin, il ne reste plus rien. Personne n'est habilité à le faire, le Seigneur seul et personne d'autre. Dans Matthieu 3, au verset 16 et 17, nous lisons ensuite. Matthieu 3, verset 16 et 17. Or, lorsque Jésus eut été baptisé et qu'il fut sorti de l'eau, voici que les cieux s'ouvrirent à lui. Et lui, donc Jean, vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici le verset 17, qu'une voix retentit dans les cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Je vais vous montrer, d'après les Écritures, comme Jésus est sorti de Dieu, n'était pas à côté de Dieu et est ensuite descendu, mais est sorti de Dieu, comme il est souvent écrit. Vous pouvez lire au moins, je peux vous lire au moins 7 passages bibliques tirés du seul évangile de Jean. Et vous finirez peut-être celle-ci. C'est pas ça, cette écriture ici, afin que vous sachiez que c'est écrit, vous avez tous une concordance à la maison, vous pouvez lire et consulter ce qui est écrit, ce qui est dit. Ici, dans Jean 16, il est écrit à la fin du 27e verset. Oui, peut-être même tout le verset 27, tout à fait. Oui, Jean 16, verset 27. Car lui-même, le Père, vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Ensuite, la dernière partie du verset 30. C'est pourquoi nous croyons que... Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que... Non, il lit tout le verset 30. Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. De Dieu ne pouvait sortir que Dieu. Mais maintenant, c'était Dieu sous forme humaine. Et la parole devait s'accomplir. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie, plus que tes semblables. Voici le commencement de la race divine sous forme humaine. Loué soit le nom du Seigneur. Il n'y a pas de parole pour l'expliquer, de mots pour l'expliquer, mais vous pouvez le vivre, l'expérimenter. Et nous l'avons déjà vécu en grande partie, l'expérimenter. Et nous allons voir pourquoi. Ce n'est pas Dieu qui baptise d'esprit de feu, mais Jésus-Christ. Vous m'avez entendu? C'est lui qui baptise d'esprit et de feu. C'est en Christ que se trouve le point central de la révélation de Dieu ici, ici-bas, pour notre rédemption. C'est en lui que la réconciliation a eu lieu. C'est par lui que le salut est venu. Personne ne vient au Père que par lui, que par moi, de lui à lui. Et c'est par lui que tout a été fait et créé. Et c'est lui qui baptise d'esprit et de feu. Mais il devait d'abord recevoir cet esprit ici sous forme humaine, dans sa forme humaine, recevoir cet esprit comme le premier-né parmi plusieurs frères pour pouvoir ensuite, en tant que fils, transmettre cet esprit de Dieu. Cet esprit de filiation qui nous engendre dans la relation père et fils, à tous les fils et filles de Dieu qui ont reçu la vie divine par la nouvelle naissance. Voici une, ici, il y a une suite de la descendance divine, de la race divine. Il y a une suite. Laissez-moi continuer ici. Ici, avez-vous bien compris cela? Ici, l'Esprit est venu sur Jésus. Jésus, l'extérieur, l'extérieur, l'enveloppe, le corps, le temple de Dieu, la manifestation visible du Dieu invisible. Emmanuel, Dieu avec nous. Je relis le verset 16 de Matthieu 3, encore une fois. Lorsque Jésus eut été baptisé et qu'il venait de sortir de l'eau, voici que les cieux s'ouvrirent à lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Je voudrais maintenant m'arrêter un instant sur le verset 17. Et voici, qu'une voix retentit dans les cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Avant que le bon plaisir de Dieu puisse venir sur l'un d'entre nous, il fallait que le commencement soit fait dans le Fils. Et il fallait que le bon plaisir de Dieu repose sur un homme d'origine divine, ici, sur cette terre. Je suis en train d'écrire un livre, nous y trouverons des choses. Et il est tout simplement important que nous les comprenions et que nous les placions dans le contexte biblique, et il est encore plus important que nous en fassions l'expérience. Permettez-moi de passer à Ésaïe, chapitre 42. S'il vous plaît, retenez le mot plaisir, le bon plaisir dans le cœur pour voir comment Dieu a eu son chemin et nous a inclus dans son programme. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur auquel je tiens, mon élu en qui tout mon cœur prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Nous venons de lire dans Matthieu 3 comment cela s'est passé. Êtes-vous dans la chose? J'ai mis mon esprit sur lui. Pour quelle raison? Afin qu'il porte le droit, selon les droits aux nations, selon la traduction, le droit, la justice, la vérité, il a tout au peuple. Il ne poussera pas de cri et ne fera pas de bruit, et sa voix ne se fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le conduit plié, il n'éteindra pas la mèche fumante. Il fera connaître fidèlement le droit. Lui-même ne s'éteindra pas et ne s'effondrera pas avant d'avoir fermement établi le droit sur la terre. Les terres maritimes attendent déjà son instruction. Ici, il est adressé comme serviteur, il a fait la volonté du Seigneur. C'est en tant que serviteur qu'il a été envoyé. Il a dit que celui qui m'a envoyé est avec moi, parce que je fais en tout temps ce qui lui est agréable. Mon élu, celui en qui mon cœur prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il porte la justice ou alors le droit jusqu'aux nations. Ésaïe 44, verset 3. 44, verset 3. Car comme je répands les eaux sur la terre desséchée et les ruissellements sur le sol aride, ainsi je répandrai mon esprit sur ta postérité, sur ta semence, et ma bénédiction sur tes rejetons. Loué soit le nom de l'Éternel. Quelque chose de merveilleux. Je répandrai mon esprit sur ta semence. Lisons tout de suite Ésaïe 53. Ésaïe 53. Verset 10. Ésaïe 53, 10. Mais il a plu à l'Éternel de le meurtrir par la maladie quand il aura livré sa vie comme sacrifice d'expiation pour le péché. Il verra une semence. Avez-vous tous bien lu? quand il aura livré sa vie comme sacrifice d'expiation, l'a-t-il sacrifié comme expiation? Amen. Et la foi est le moyen divin efficace dans ton cœur. La foi en la réconciliation de Dieu avec l'humanité en Jésus-Christ notre Seigneur. Et maintenant, la semence divine sort. Isaïe 52, verset 13, il est écrit, « Sachez que mon serviteur prospérera. Il montera, Isaïe 42, 13, il sera élevé, il se tiendra exalté. » Tout a été décrit. Son humiliation totale, son abaissement, ensuite son obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Et ensuite, son exaltation totale au-delà de tous les cieux et un nom supérieur à tout autre nom. La même chose se trouve encore une fois dans Ésaïe 53, verset 11. À la suite de son angoisse de l'âme, il verra du fruit et en sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur, comme juste, aidera la multitude à être justifié en se chargeant et en portant sur lui leurs iniquités. Il devait être ici-bas sous la forme d'un serviteur. Et les hommes ne le comprennent pas et moi non plus. C'est pourquoi je n'en veux à personne. Car qui peut comprendre que Dieu se débarrasse de son corps spirituel pour apparaître dans un corps de chair et qu'il prenne la forme d'un serviteur? Personne ne peut l'expliquer. Mais cela devait arriver à cause de nous. Et cela est arrivé aussi. Il s'est fait homme pour l'amour des hommes, afin que les hommes puissent devenir divins, être rétablis comme fils et filles de Dieu. C'est donc bien le Seigneur, Jésus, Ésaïe 53, encore une fois, verset 10. Mais il a plu à l'Éternel de le meurtrir par la maladie. Quand il aura livré sa vie comme sacrifice d'expiation pour le péché, il verra une semence postérité et il aura une postérité et vivra de longs jours et la volonté de l'Éternel dans le plan du salut s'accomplira par lui. Ça s'accomplit. Ça s'exécute. Ça prospère. Et vous verrez qu'en Christ, Dieu réalise son dessein de salut conçu de toute éternité, pour toute éternité. Nous passons au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, 32 et 33. Verset 32 et 33. Ici, il est écrit. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 32 et 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Ayant donc été élevé par la droite de Dieu et ayant reçu du Père le Saint-Esprit promis. Avez-vous bien entendu? Avez-vous bien entendu? Avez-vous lu avec moi? Et ayant reçu du Père le Saint-Esprit promis, il l'a maintenant, comme vous le voyez, donc l'Esprit, comme vous le voyez et l'entendez, vous-même répandu ici. Alléluia! Ici, la semence divine, la postérité, était rassemblée dans l'Église primitive. Les premiers 120, comme une semence divine, sur laquelle l'Esprit de Dieu devait venir, on a lu dans Ésaïe, racheté par le sang, baptisé avec l'Esprit, et dans le Fils. Et je le répète, le Fils est la révélation centrale de Dieu pour l'ensemble du conseil de salut qu'il a pris de toute éternité, qu'il a fait de fixer, conçu de toute éternité, et qu'il réalise dans le temps pour l'éternité. C'est pourquoi l'Esprit devait venir en premier sur le Fils, afin que le même Esprit puisse venir sur tous les fils et les filles de Dieu et qu'ils reçoivent ainsi d'être établis dans la filiation, dans la position de fils et former ainsi la descendance divine ici sur cette terre, chair de sa chair, eau de ses eaux, vie de sa vie, nature de sa nature. Vous savez, qui étudie la théologie, celui qui étudie la théologie, je pourrais presque rire, mais c'est à pleurer. Il a pour tâche principale d'opposer chaque personne de Dieu à une autre. C'est le plus grand matériel et le plus vaste. Il est élaboré. Quel rapport du Père au Fils, du Fils au Père, du Père à l'Esprit, de l'Esprit au Fils. C'est un cercle dont les théologiens ne peuvent absolument pas sortir pour clarifier une relation entre le Père et le Fils ou quelque chose comme ça. Ou est-ce que je suis là pour comprendre que Dieu a clarifié sa relation avec l'humanité en Jésus-Christ, notre Seigneur? En quoi sommes-nous là? Pour philosopher? Ou à voir de quelle manière Dieu a clarifié sa relation avec l'humanité en Jésus-Christ, notre Seigneur? Nous n'avons pas besoin d'explication, mais seulement de croire. Comme le dit l'Écriture, de croire pour que l'expiation puisse être efficace et que la semence divine puisse être imprégnée de l'Esprit de Dieu, abreuvée par l'Esprit de Dieu, remplie de l'Esprit de Dieu. C'est ici, nous, dit-on que nous avons lu, n'est-ce pas? Après avoir été élevé par la droite de Dieu, il relit le verset 33 de Actes 2. Ayant donc été élevé par la droite de Dieu et ayant reçu du Père le Saint-Esprit promis, il a maintenant, comme vous le voyez et l'entendez vous-même, répandu ici. Permettez-moi de faire ici encore la remarque. Là, dans l'endroit où tombe l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose à voir et à entendre. Là où l'Esprit de Dieu est répandu, il y a quelque chose à voir et à entendre. Avez-vous tous lu ce point? Comme vous le voyez et l'entendez vous-même, répandu ici. Là où il y a une effusion de l'Esprit Saint, il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose à entendre ou non. C'est ce que je viens de lire ici. Est-ce que cela est aussi écrit dans votre Bible? Je le suppose. Oui, je le crois, je le sais. Comme vous le voyez et l'entendez vous-même, répandu ici. Passons à Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Ici, il nous est dit, et comment est-ce que cela a évolué ici? Jean, chapitre 15, nous lisons le verset 26. Mais quand viendra le soutien, selon la traduction, le secours, l'avocat, le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père. Avez-vous bien lu avec moi? Que je vous enverrai d'auprès du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. Si vous consultez les livres de théologie, vous y lirez toute autre chose. Ils disent, l'Esprit Saint sort du Père et du Fils. Les Saintes Écritures disent l'Esprit de vérité qui sort du Père. Amen. Qui vient du Père, qui sort du Père. En effet, de même que Jésus a été la manifestation de Dieu dans la chair, sorti de Dieu, de même l'Esprit est sorti de Dieu. Et c'est Jésus qui baptise d'Esprit et de feu. Je le lis encore une fois. Mais quand viendra le soutien que je vous enverrai d'auprès du Père, mais quand viendra le Saint-Esprit que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Regardez, c'est bien l'ordre. En Christ, le Fils, Dieu a fait le commencement. Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir, mon serviteur, mon élu, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il portera le droit et la justice aux nations. Il a fait. Et maintenant, de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes les nations, il y a des gens qui sont venus à la foi. Et c'est là la semence divine. Et sur cette semence divine, Dieu répand son esprit, comme il est écrit. Dans les derniers jours, Dieu dit, c'est alors que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur qui l'Esprit sera-t-il répandu? Sur les rachetés. Sur ceux qui ont été rachetés par le sang. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Et c'est lui, le Rédempteur, qui baptise les rachetés avec l'Esprit et le feu. Dans l'Esprit et le feu, il n'a pas seulement fait le commencement avec nous, il continue. Et c'est par grâce qu'il accomplira l'achèvement avec nous tous. Nous n'y arriverons pas par nous-mêmes, mais en regardant vers Dieu, notre âme est tranquille. Non pas que nous voulions nous reposer maintenant, non, nous nous reposons en Dieu et nous avançons en lui en même temps. C'est ce que chante un auteur-compositeur. Cela aussi est un mystère. D'une part, être au repos en Dieu. D'autre part, avoir le désir d'aller de l'avant avec Dieu, de vivre d'expérimenter davantage, d'être plus intimement lié à lui. Bien, mes frères et sœurs, chers amis, l'époque dans laquelle nous vivons est grave. Et nous devrions vraiment servir le Seigneur avec ardeur, ne pas être plus intimement, ne pas être seulement un peu pieux parce que nous avons peur, si nous ne l'étions pas, de descendre en enfer, mais être là pour notre Rédempteur à sa disposition, en tant que sauvé, en tant que des gens qui ont reçu la grâce, en tant que racheté. C'est ce qui nous a déjà été lu au début de cette assemblée, de cette réunion. Servir le Seigneur. Et Paul écrit à un endroit que nous devons être enflammés, prêts à servir le Seigneur. Romains 12. Ainsi, de même que le Fils est sorti du Père, l'Esprit aussi est sorti du Père. Et le jour vient où Dieu sera de nouveau tout en tous et ensemble pour que ces révélations divines de Dieu fassent partie du conseil du salut de Dieu. Elles auront trouvé leur achèvement lorsque l'accomplissement sera là et que nous serons avec lui dans la gloire en tant que fils et filles de Dieu. Nous avons lu dans les Actes des Apôtres que l'Esprit a été répandu. L'ordre est très clair. Jésus, le point central de la révélation de Dieu ici sur terre, et celui qui cherche Dieu ailleurs qu'en Jésus-Christ ne le trouvera pas. Jésus-Christ est la manifestation de Dieu dans la chair et le Saint-Esprit, la manifestation de Dieu dans l'Esprit. Un seul Dieu qui se révèle et se manifeste de différentes manières, dans différents buts, mais tout est devenu pour lui et par lui et sert à notre bénédiction et à notre salut. Dans Jean 16, je lis le verset 13. Jean 16, verset 13, peut-être même le verset 12, avec le verset 13. Jean 16, verset 12. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand sera venu celui qui est l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas une personne indépendante, il ne peut pas parler de lui-même. Avez-vous compris cela? Il ne parlera pas de lui-même. Mais ce qu'il entendra, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Cela aussi, nous l'avons vu expérimenté d'une manière merveilleuse. Les Saintes Écritures ont une partie prophétique que les gens ne comprennent pas. J'ai lu ce matin une parole à laquelle les gens s'accrochent et se pendent même. Beaucoup se pendent eux-mêmes par la corde qu'ils ont tordue avec les Saintes Écritures. Matthieu chapitre 10 est un tel passage. Matthieu chapitre 10, verset 23. Matthieu 10, 23, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. » Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Les athées prennent cette parole et disent, oui, mesdames et messieurs, vous n'aurez pas fini avec les villes d'Israël jusqu'à ce que le Fils de l'homme vienne. Et ils disent, eh bien, vous voyez, c'est là que vous l'avez dit, c'est là que vous l'avez dit, et alors, où est l'accomplissement? Mes frères et sœurs bien-aimés, allez donc avec Jean sur l'île de Patmos. Qui est-ce qu'il a vu là-bas? Jésus, le Fils de l'homme, marchant dans sa gloire au milieu des sept sangliers d'or. Il y a dans le Nouveau Testament suffisamment de prophéties qu'il faut à nouveau classer dans le domaine du divin. Les non-croyants pensent déjà à Daniel 7, à Matthieu 24, 31, et ainsi de suite. Lorsque le Fils de l'homme viendra et que tous les yeux le verront, Jean l'a vu tel qu'il a été vu sur la montagne de la transfiguration. Son visage resplendissait comme le soleil, ses yeux comme des flammes de feu. Il vit le Fils de l'homme entrer dans sa gloire, dans l'église, et marcher au milieu de cette salle de l'or. Il y en a encore beaucoup qui vivaient à l'époque où cela s'est produit. Mais ils n'ont pas compris de quelle manière les saintes écritures se sont accomplies. J'aimerais parfois que Dieu m'en donne l'occasion. Parfois, cela me démange un peu de pouvoir parler d'ami à ami avec tous ces critiques pour leur montrer à partir des Écritures que tout ce qu'ils critiquent n'a aucun fondement, que ce ne sont que des malentendus qu'ils ont eux-mêmes interprétés dans les Écritures et qui n'y sont pas du tout. Il y a en effet rien de plus que ce qu'ils y mettent. Il n'y a que ce que vous y mettez. Je me réjouis simplement. Et je vais vous dire pourquoi. Nous vivons en effet une époque si merveilleuse. Où que l'on ouvre les Saintes Écritures, la révélation est partout. On voit le contexte, on reconnaît ce qui a été révélé par l'Esprit. Et ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu. Nous vivons dans un âge prophétique. Et c'est pourquoi tout est révélé. Encore rapidement, deux ou trois passages de l'Épître aux Romains. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 15. L'esprit que vous avez reçu n'est pas en effet un esprit de servitude, au point que vous ayez à nouveau à craindre, mais vous avez reçu l'esprit de filiation qui vous engendre dans la relation père-fils. Vous l'avez déjà lu? Je voudrais juste faire le lien avec Galates. Galates, chapitre 4. Chapitre 4 à 7. Verset 7, 4 à 7. Galates, chapitre 4, verset 4 à 7. Écoutez chaque mot, s'il vous plaît. Chaque verset tel qu'il est écrit ici. Galates, chapitre 4. Du verset 4. Quand le temps fut accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. Comment est-ce qu'il a envoyé son fils? Né d'une femme. Et ce qui naîtra de toi vient du Saint-Esprit et sera appelé fils du Très-Haut. C'est ainsi que Dieu a envoyé son fils, comme cela nous est décrit dans la Bible. Un enfant. L'enfant vous sera né, le fils vous sera donné. C'était une promesse qui s'est ensuite réalisée dans le Nouveau Testament. Matthieu l'explique si magnifiquement dans le premier chapitre et écrit ensuite ici s'est accomplie la parole du prophète Ésaïe qui dit, voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom d'Emmanuel. Lisez les derniers versets de Matthieu 1 et vous trouverez cela écrit. Alors, comment est-ce que Dieu a envoyé son fils? Comme cela nous est attesté dans les Saintes Écritures. Amen. Et pas autrement. Nous croyons bibliquement. Et je m'en réjouis. Cela me met pas dans l'orgueil, mais fait la différence entre tous les autres et entre ceux qui sont vraiment nés de Dieu. Celui qui est né de Dieu connaît Dieu. C'est ainsi que c'est écrit. Celui qui est né de Dieu connaît Dieu. Et celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu. Il n'entend pas des interprétations, des explications. Il entend la parole de Dieu parce qu'il est une partie de la parole, à savoir qu'il est né de la semence divine et qu'il a été conçu dans l'esprit de la filiation, qu'il engendre dans la relation père-fils, afin de connaître ce qui nous a été donné dans le Fils. Je relis Galates 4, verset 4. Quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils, né d'une femme. Pourquoi femme? Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme viendra et écrasera la tête du serpent. Jésus n'a pas appelé Marie mère une seule fois. Toujours femme, femme. Que t'importe mes affaires, femme. En cela aussi, la parole de Dieu est parfaite. Absolument parfaite. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme qui fut soumis à la loi. Il devait racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous atteignions, écoutez bien, l'établissement dans la position de Fils. Est-ce que vous remarquez de quoi il s'agit? Il s'agit d'être établi dans la position de Fils. Que nous soyons réinstallés, rétablis comme fils et filles de Dieu, nés de Dieu, comme il est sorti de Dieu maintenant. Le verset 6. Or, parce que vous êtes maintenant des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Exactement comme nous l'avons lu dans l'Épître aux Romains, Abba Père. C'est ainsi que nous l'entendons et le lisons à nouveau ici. Et c'est pourquoi il est écrit aussi la promesse du Père. Ici, il s'agit de la promesse du Père. Il n'y a qu'une seule fois cette expression en référence à l'Esprit Saint promis aux siens. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père. Tout ce qui est né et est appelé enfant de Dieu reçoit la promesse du Père. Tout le reste sont des promesses de Dieu, des promesses de la parole. Cette promesse-là, c'est la promesse du Père. C'est-à-dire de recevoir le Saint-Esprit, et nous voyons l'ordre. Racheté dans le Fils. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, le Fils nous baptise d'esprit et de feu pour nous établir dans la relation, dans la position de Fils, dans la filiation. Non pas seulement pour nous racheter, pas seulement pour mettre fin à notre passé, pas seulement pour effacer et réconcilier, pour nous réconcilier et effacer nos péchés et nos fautes, mais pour nous mettre, pour nous élever, pour nous justifier, pour nous sanctifier et pour nous faire entrer dans la position divine, condition divine. Pas seulement devenir enfant de Dieu, mais être établi dans la position de Fils. Or, au verset 6 maintenant, « Or, parce que vous êtes maintenant des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Car, par conséquent, tu n'es plus un esclave, mais un fils. Et si tu es un fils, tu es aussi un héritier par Dieu. Qu'est-ce qui pourrait être encore dit ici? Avec cette parole de Galates, passons encore au chapitre 8 de Romains. Nous avons donc été placés et transférés dans la relation père-fils et établi dans leur position de fils, mais nous devons attendre jusqu'à ce que notre accomplissement vienne. Et c'est justement cette attente qui est difficile pour certains. Aujourd'hui, je regardais par la fenêtre et j'ai vu quelques personnes, des frères et des sœurs, qui ont mon âge et qui sont un peu plus âgés. Un frère avec une canne et ensuite... Alors je devais me décider si je... voulais être, ou je voulais me réjouir ou bien alors être triste à ce sujet. Et j'ai décidé d'être heureux à ce sujet. D'une part, lorsque nous remarquons que nous-mêmes et d'autres personnes vieillissent, il y a en effet une certaine tristesse. Le corps ne fonctionne plus comme avant, mais quand on pense que ce corps terrestre pourrait se transformer d'un moment à l'autre et que nous serons tout à nouveau jeunes, changés, devons-nous alors nous plaindre et murmurer? Non. Nous devons remercier Dieu de ce que nous sommes destinés à vivre, non seulement le changement de nos âmes et de nos cœurs, mais aussi, en fin de compte, le changement de ce corps terrestre. décrépit par la grâce. Changement de ce corps par la grâce. Il est écrit dans Romains 8, verset 3, une parole très connue, Romains 8, verset 23. Mais non seulement elle, donc la création, mais aussi nous. Mais nous aussi, qui possédons déjà l'esprit comme premier don. L'esprit, nous gémissons de même en nous-mêmes, attendant la manifestation. Attendant. Frère Franck met l'accent sur le mot attendant. La manifestation de la stature de fils, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Nous sommes sauvés, rachetés, avons reçu la vie éternelle, mais nous devons attendre jusqu'à ce qui est mortel révèle l'immortalité et ce qui est corruptible révèle l'incorruptibilité. Nous devons attendre que Jésus revienne avec la trompette de Dieu, avec la voix de l'archange, avec le cri de réveil, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous qui vivons et qui sommes restés, nous serons changés. Restez vivants, nous serons changés. Et avec lui, enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et nous serons alors avec le Seigneur pour toujours. Restez vivants. Maintenant, le Seigneur est avec nous. Ensuite, nous serons auprès de lui. Il est maintenant présent en esprit pour agir en nous, pour révéler sa parole et la faire connaître, pour nous instruire, pour nous révéler aussi ce qui est à venir. Tout cela se passe déjà puissamment au milieu de nous. Mais la perfection, l'achèvement, à savoir le changement de nos corps, est encore à venir. Et nous l'attendons parfois peut-être avec un peu d'impatience, mais ne vous inquiétez pas. Même si certains nous précédaient encore, ce n'est pas si grave. Beaucoup voudraient même partir. Ils en ont déjà assez de cette terre. Ils aimeraient être avec le Seigneur. Que nous partions avant ou que nous restions vivants, c'est la même chose. Car il est écrit, nous ne précéderons pas ceux qui se sont endormis. Pourquoi? Parce qu'ils ressusciteront premièrement. Ensuite, nous serons changés. Nous qui sommes restés vivants et ensemble, nous serons alors tous enlevés. Alors que nous soyons endormis avec Christ ou que nous soyons encore vivants avec lui, c'est la même chose. Nous sommes dans le Seigneur et nous appartenons au Seigneur où nous serons aussi auprès du Seigneur pour toujours. Voyez-vous maintenant le plan de la rédemption de Dieu pour l'humanité? Notre bien-aimé frère de Kinshasa m'a demandé quel thème serait utilisé lors de nos réunions spéciales là-bas. Spontanément, j'ai répondu, le plan de Dieu pour l'humanité. C'est notre thème, le plan de Dieu pour ou alors avec l'humanité. Un plan magnifique, conçu avant la fondation du monde et mené à bien au fil du temps, accompli pour l'éternité. Achevé, pour l'éternité. Et je vous le dis, dès aujourd'hui, dans l'éternité, tout sera non seulement parfait, mais achevé. Aucune chaise ne sera vide. Tout sera à nouveau complet comme il l'était dans l'éternité. Il en sera de même dans l'éternité. Tous les rachetés seront présents alors avec le Seigneur là-bas en tout temps. Je me réjouis simplement que Dieu ait trouvé un moyen de ramener à lui l'homme déchu, séparé de lui par la désobéissance. Non seulement maintenant, pas seulement de le conduire à lui maintenant et malgré tout le laisser comme une créature simple, mais que Dieu ait pris un nouveau départ et que Jésus-Christ soit ce départ, ait fait un nouveau commencement et que Jésus-Christ soit ce commencement, le commencement de la création de Dieu, issu de Dieu, sorti de Dieu et de même que sur terre nous venons tous d'Adam, de même spirituellement nous venons tous de Christ. Le deuxième Adam, né de Dieu, fait fils et filles de Dieu. Il envoie l'Esprit, l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, lui le Rédempteur, envoie sur tous les rachetés. L'envoie sur tous les rachetés. Dans quel but? Pour leur donner de la puissance et après qu'ils aient clarifié leur relation avec Dieu dans la prière, à savoir que nous puissions dire à Papa Père, vous les hommes qui êtes Père, est-ce que chaque enfant qui se promène quelque part peut te dire Père? Ce n'est pas possible. Qui peut te dire Père? Tes enfants ont une relation avec toi en tant que Père. Tous ceux qui se promènent sur la terre ne peuvent pas appeler Dieu leur Père. Seuls ceux que Dieu a engendrés, ceux qui sont nés de Dieu, de la semence divine, ceux-là sont des fils et des filles de Dieu. Et c'est en eux que Dieu envoie l'Esprit de son Fils pour que ainsi la relation soit clarifiée. Abba Père, n'est-ce pas là quelque chose de glorieux? Dieu a des fils et des filles sur la terre. Jésus-Christ, le premier-né parmi de nombreux frères. Cela est aussi vrai. Il est aussi vrai qu'il est le Seigneur. C'est aussi vrai qu'il est le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Mais il a aussi été un serviteur. Il a aussi été serviteur qui a dû s'abaisser pour nous offrir, pour nous servir, etc., etc. Nous n'avons pas besoin d'en parler si individuellement. Remercions Dieu aujourd'hui de tout notre cœur pour ce qu'il a fait en Jésus-Christ pour nous. Réjouissons-nous déjà de l'achèvement, de la perfection, car il est proche. L'achèvement est proche. Le temps n'est pas seulement proche, le temps est là. On peut dire simplement, on peut simplement le voir et il touche à sa fin. Il va à sa fin. Dieu a un reste qui peut être appelé à sortir et nous pouvons en faire partie par grâce. C'est aussi le dernier message qui se laisse appeler à sortir et ça c'est aussi le dernier message, celui que nous appelons le message de la fin des temps. Parce que c'est maintenant, à la fin, le message divin, il est ce message divin pour la fin maintenant, pour communiquer au peuple de Dieu ce que Dieu a à nous dire et pour révéler ce que Dieu veut révéler. Je n'ai certainement pas besoin de lire un passage de l'Écriture. Maintenant, nous avons pris les paroles à cœur. Maintenant, croyons-les nous aussi et disons simplement, Seigneur, mon Dieu, tu as clarifié la relation avec nous. Tu t'es révélé dans le Fils pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. Il est notre Rédempteur. Dans son sang, notre expiation, notre réconciliation est effective par la foi. Et il envoie l'Esprit dans nos cœurs, l'Esprit de son Fils, afin que nous puissions crier à Abba Père. Et nous sommes enfants. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu n'a pas pu faire plus que ce qu'il a fait. Et je vous le dis avec assurance, il a fait tout ce dont nous avions besoin pour être avec lui pour l'éternité. Il ne nous reste plus que d'accepter personnellement et à en faire l'expérience personnellement et à laisser l'Esprit de Dieu agir en nous pour que ce ne soit pas seulement des écritures que nous écoutons, que nous entendons, mais des expériences personnelles que nous vivons conformément au témoignage de l'Écriture. Afin que là aussi, ce que Dieu a promis corresponde à ce que nous expérimentons, corresponde à nos expériences, à ce que nous vivons, pour que la foi et les œuvres s'harmonisent ensemble et que le Seigneur vienne à son droit, reçoive ce qui lui vient de plein droit en nous, avec nous et par nous tous. Loué soit son glorieux nom. Êtes-vous, vous êtes heureux de cela? Alors remercions Dieu ensemble maintenant. Levons-nous pour le faire. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous pouvons te parler en tant que fils au Père. Nous n'avons pas besoin de crier comme les prêtres de Baal. Nous pouvons te parler. Nous aimerions tout d'abord rendre grâce pour ta révélation dans la chair, pour ta révélation dans l'esprit, afin de pouvoir ainsi nous retirer du domaine terrestre dans le domaine céleste, de nous ramener dans le domaine céleste, nous retirant du domaine terrestre. Seigneur, bien-aimé, les mots nous manquent pour le décrire. Mais nous croyons de tout cœur que tu l'as fait. Tu as des fils et des filles sur la terre que tu as engendrés par la parole de vérité et par l'esprit. Tu as des fils et des filles sur lesquels l'esprit vient pour qu'ils puissent crier Abba Père. Fils et filles que tu scelles du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption de nos corps. Seigneur, nous te remercions de ce que tu n'as rien oublié. Tout est écrit dans la parole. Très simple, très clairement. Fais-nous en faire l'expérience. Maintenant, prions ensemble. Et les uns pour les autres. Offre à chacun ce qu'il demande et dont il ou elle a besoin. Tu le sais bien. Tu regardes dans les cœurs. Réponds maintenant. Viens sur nous tous avec ta grâce, avec ton esprit, avec ta puissance. Nous croyons en la puissance de ton sang, en la puissance de ta parole, en la puissance de ton esprit. Seigneur bien-aimé, accomplis, opère une œuvre en cette heure pour la gloire et la louange de ton nom en nous tous. Je te remercie. C'est toi qui l'as fait. Alléluia. Et que tout le peuple commence à louer le Seigneur, à crier Alléluia et à dire Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est accompli. Il l'a fait. Nous l'avons expérimenté. Nous l'avons reçu. Fils et fille de Dieu. Alléluia. La vie sortie de Dieu elle-même. La nature sortie de Dieu lui-même. La nature de Dieu lui-même. Alléluia, alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Glorifiez son nom. Qui a délivré nos vies de la corruption, de la fosse. Et nous a couronnés de grâce et de miséricorde. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Gloire à Dieu. Loué soit Dieu. Seigneur bien-aimé, nous avons encore une requête. Une requête commune. Que tu penses aussi à tous ceux qui nous sont proches par un salut proche lié à l'apport de la récolte. À tous ceux que nous aimerions voir auprès de toi, Seigneur. Bien-aimé, même si tu devrais les arracher au feu comme un tisson de dernière minute, fais-le au Seigneur à cause de ton Saint-Nom. Et rends-nous ardents d'esprit, prêts à te servir. Sauveur bien-aimé, s'il y a encore ici ceux qui vont se faire baptiser, sois aussi avec eux, afin qu'ils sachent sur la base de ta parole que le baptême biblique est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu t'es révélé comme Père dans le ciel, comme Fils sur la terre, et en nous par le Saint-Esprit. Mais tu n'as pas seulement des formes de révélation, tu as un nom qui est au-dessus de tous les noms. Emmanuel, Jésus-Christ, Dieu avec nous, le Seigneur est rédemption. Nous te remercions pour cela, pour nous avoir permis de reconnaître quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce nom dans lequel nous devons être baptisés, à savoir le nom au-dessus duquel il n'y a pas d'autre nom. Seigneur bien-aimé, fais-le en toute hâte pour que les derniers soient simplement ajoutés rapidement. Ouvre-leur la compréhension de l'Écriture, qu'ils l'aperçoivent aujourd'hui et qu'ils viennent à toi pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, comme Rédempteur, et qu'ils se fassent baptiser bibliquement, et nous tous, qui sommes devenus tièdes, qui ne brûlons plus comme nous brûlions autrefois, qui n'avons plus autant de temps pour toi que nous en avions autrefois, pour qui les réunions ne signifient peut-être plus ce qu'elles signifiaient pour nous autrefois. Seigneur, bien-aimé, donne-nous un tournant complet et ramène-nous au premier amour, au premier amour, à la première communion, aux premières œuvres, à l'origine, oui, à l'église primitive. Fais-nous participer à ce retour complet, au rétablissement de toutes choses. À toi, Dieu vivant, le Dieu vivant, à toi soit la gloire et l'honneur, l'adoration, la gloire, pour l'éternité. Amen.